Ben, j'ai reçu ton ordinateur.
Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Puce à l'oreille. En 15 minutes chrono, l'informatique et ses concepts nébuleux sont rendus simples, concrets, pratiques, accessibles. Sur un temps ludique, on explore les différentes possibilités offertes par le numérique et surtout, on les dépasse pour imaginer un horizon virtuel plus désirable. Depuis plusieurs années, l'intelligence artificielle est partout. Dans nos vies, certes, et aussi dans nos imaginaires. On ne compte plus le nombre de films, de livres, de séries dont le scénario s'inspire de ce drôle de concept, une machine capable de raisonner comme un humain. Vraiment comme un humain ? Si les algorithmes apprennent, sont-ils vraiment capables de raisonner ? Et si l'on fait bien l'usage de réseaux neuronaux en intelligence artificielle, à quel point celle-ci ressemble-t-elle au cerveau humain ? Et oui, vous l'avez deviné, aujourd'hui nous allons parler de deep learning dans ce nouvel épisode de La Puce à l'oreille. Je vous propose d'explorer le champ des possibles en compagnie d'Arnaud Demortière, chargé de recherche au CNRS et spécialiste en électrochimie et traitement d'images grâce au deep learning. Bonne écoute! De l'assistant conversationnel de Her, le film réalisé par Spike Jonze, en passant par Terminator, les représentations de l'intelligence artificielle dans la pop culture sont nombreuses. Mais en vrai, c'est quoi une intelligence artificielle, Arnaud Demortière ?
Alors, l'intelligence artificielle, ça désigne les différents processus gérés par un algorithme qui imite les fonctions cognitives, telles que l'apprentissage, la résolution de problèmes complexes et la prise de décision. Donc on peut distinguer deux types d'IA. Il y a l'IA dite forte, qui est une intelligence artificielle presque identique à notre intelligence propre, car elle a conscience d'elle-même. Alors ça, c'est vraiment une intelligence artificielle qu'on peut rencontrer dans les séries de science-fiction telles Star Trek et Fondation, par exemple. Mais elle n'existe pas à l'heure actuelle. L'autre type est dite faible, donc c'est vraiment l'intelligence artificielle d'aujourd'hui, donc qui a des applications dans la reconnaissance faciale, les algorithmes d'affinité sur les réseaux sociaux ou sur les sites de traduction de langue. Donc on peut distinguer deux types d'apprentissage. Il y a un premier type d'apprentissage qui est dit supervisé. Alors pourquoi supervisé ? C'est parce que on demande à l'utilisateur de faire des annotations, de faire des commentaires et d'identifier des caractères, par exemple, dans des images.
Cet exemple de reconnaissance d'image doit bien vous dire quelque chose. Eh oui, ce sont les fameuses images CAPTCHA utilisées par Google. Ces petites épreuves d'identification de vélo, feu rouge ou passage piéton que l'on vous invite à résoudre avant de passer à la page suivante. Pendant quelques minutes, eh bien vous voilà devenu un travailleur du clic. Vous mettez ainsi à profit vos capacités humaines de traitement de l'information pour alimenter la gigantesque base de données qui sert au développement, par exemple, des voitures autonomes. Et tout cela permet de parfaire leurs algorithmes. Mais pour apprendre, une intelligence artificielle n'a pas forcément besoin de l'utilisateur. C'est ce que nous explique Arnaud Demortière.
L'autre apprentissage est dit non supervisé. Dans ce cas-là, l'algorithme se débrouille tout seul. Et là, c'est plus sur des travaux, par exemple, qui va concerner le classement d'un groupe de personnes, de différents caractères. Donc plus largement, ces deux notions-là, elles vont avoir plein d'applications dans l'industrie, dans le traitement de différentes données, conception, l'analyse, l'optimisation, l'implémentation de différentes méthodes.
Mais alors, quel est le rapport avec l'apprentissage profond, pourriez-vous nous rétorquer ? Eh bien, le deep learning est un sous-ensemble du machine learning qui est lui-même un sous-ensemble de l'intelligence artificielle. Vous me suivez ? Allez, on laisse Arnaud nous expliquer.
Et puis, le troisième noyau, on va dire, là, concerne le deep learning. On appelle ça l'apprentissage profond. Alors, le deep learning, c'est un sous-ensemble donc du machine learning et il s'appuie sur l'utilisation des réseaux de neurones artificiels. Alors, un neurone artificiel, évidemment, c'est inspiré du fonctionnement des neurones biologiques, les neurones qu'on a dans notre cerveau. avec des notions, comme je le disais, mathématiques, des notions statistiques pour le traitement de l'information.
Attendez, pause. Un neurone artificiel ? Mais alors, les cerveaux humains travaillent réellement à recréer un cerveau informatique ?
Dans les premiers âges de l'intelligence artificielle, ça a été un des objectifs. Disons que le terme d'intelligence artificielle a été créé par John McCarthy en 1950. C'est un mathématicien de Stanford qui est un des pionniers de l'IA. Et c'est vrai que dans cette démarche initiale, l'idée était de vraiment copier les fonctionnalités des neurones biologiques pour pouvoir inventer, faire émerger une intelligence artificielle. Disons qu'avec 50 ans de recul, même plus, on a maintenant identifié les limites des réseaux artificiels et on n'est plus du tout dans une démarche de mimétisme évidente.
Et aujourd'hui, alors ?
Le mimétisme, il est un peu tendu. C'est-à-dire qu'on n'est pas très près de vouloir vraiment imiter le cerveau humain. Par contre, plus on connaît le cerveau humain, plus on arrive à en extraire des notions générales. Et ces notions générales vont nous aider, en fait, à avoir des stratégies pour améliorer les algorithmes de réseaux neurones artificiels.
Ces notions générales auxquelles Arnaud de Mortière fait allusion, eh bien, ça peut être l'oubli ou encore l'apprentissage grâce aux neurones miroirs, par exemple. Deux choses qui, on le sait aujourd'hui, permettent déjà d'optimiser le fonctionnement du cerveau humain. Autrement dit, on vise un résultat, on s'inspire de la méthode, mais on ne cherche pas à reproduire à l'identique. On crée un nouvel objet qui a son propre fonctionnement et ses propres limites. Mais alors, comment est-ce que cela fonctionne-t-il ?
Alors, un réseau de neurones artificiels, on peut l'assimiler à un millefeuille formé de couches superposées. Chaque couche, en fait, contient un certain nombre de neurones. Et ces fameux neurones, en fait, sont des unités simples de calcul. Alors, les unités simples de calcul, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le calcul simple, comme la sommation, la multiplication, a lieu, justement, dans ce neurone-là. Donc, ces neurones, en fait, ils sont excités. Et cette excitation va se transmettre d'un neurone à un autre, d'un neurone voisin, et par suite dans l'ensemble du réseau. Donc chaque neurone, en fait, a deux facteurs, il y a un poids et un seuil, c'est les paramètres en fait. Et cette excitation, suivant les paramètres en fait, on va pouvoir déterminer la manière dont l'excitation va se propager, en quelque sorte. Et donc, grâce à une période d'apprentissage, on va ajuster en fait ces deux paramètres, le poids et le seuil, pour pouvoir justement donner la capacité au système d'apprendre à réaliser des tâches.
Bon, ok. Cela peut sembler un peu compliqué au premier abord. Mais en fait, rassurez-vous, ça ne l'est pas. Je vous explique. Les résultats proposés par l'algorithme reposent sur le mécanisme de la rétropropagation. Comprenez l'itération. Si le résultat sorti n'est pas satisfaisant ou n'est pas suffisamment qualitatif, eh bien on recommence des dizaines et des dizaines de milliers de fois en ajustant les paramètres petit à petit. On arrive alors à une forme d'accuracy, comme on dit en anglais, et on va dire de précision dans la langue de Molière. Un saint graal pour les chercheurs et chercheuses en intelligence artificielle qui signifie eh bien que les paramètres sont au point.
En quelque sorte, un réseau de neurones ne nous donne pas la réponse oui ou non, il va me donner en fait une statistique sur la qualité de la tâche réalisée. C'est-à-dire, en gros, j'ai bien réalisé cette tâche à 90%.
En d'autres termes, le réseau neuronal est calibré de telle sorte à pouvoir s'auto-évaluer grâce aux leçons tirées de milliers d'échecs successifs. Dis donc, ça ressemblerait presque à une philosophie de l'apprentissage, ce truc. Les réseaux neuronaux sont ainsi des super calculateurs qui sont super rapides et qui ont une super mémoire. Ce sont des petits génies qui travaillent sur une tâche spécifique. Et pourtant, cette super intelligence, eh bien, elle a aussi son revers de la médaille. On parle ici d'overfitting.
On peut imaginer un réseau qui soit, on va dire, d'une certaine rigidité intellectuelle. On peut assimiler ça à du psychorigide du point de vue de l'individu. Si le réseau est trop dans un overfitting, eh bien, il va arriver tout de suite à une solution optimisée. Mais par contre, le résultat sera bon, mais il ne va pas accomplir la tâche de manière flexible. C'est-à-dire que si on lui demande de répéter cette tâche avec d'autres données d'entrée, il va avoir une erreur.
Est-ce à dire qu'une super intelligence peut devenir bête ? Eh bien, en tout cas, cela signifie qu'une trop forte pertinence fait perdre en capacité d'adaptation, et par la force des choses, eh bien, cela produit des erreurs. C'est intéressant, n'est-ce pas ? On aurait presque envie d'en tirer les leçons pour nous autres humains. On vous l'avait dit, ça deviendrait presque de la philo, notre histoire. Aujourd'hui, la mobilisation de ces réseaux de neurones artificiels est omniprésente dans notre vie quotidienne. Trois grands champs sont notamment concernés. On parle de computer vision, c'est tout ce qui concerne en fait le traitement d'images et qui offre une autre façon, une nouvelle façon d'observer le monde. On a aussi tout ce qui est text mining, qui concerne donc l'extraction de données textuelles dans un texte. Et tout ça, eh ben, c'est très pratique pour tout ce qui concerne la traduction d'une langue à une autre, par exemple. Et puis enfin, bien sûr, la reconnaissance vocale. Si vous souhaitez d'ailleurs en savoir plus sur le sujet, on vous recommande d'aller écouter l'épisode 9 sur le traitement automatique des langues que nous avons réalisé avec François Yvon. Bon, et maintenant, à quoi va servir l'intelligence artificielle ? Terminator, c'est pour aujourd'hui ou pour demain ?
Pour le futur, je pense qu'il y a une révolution qui est en place, ça touche tous les domaines de la société. Mais en particulier, je dirais, il y a une vraie nouvelle révolution industrielle qui se met en place, ce qu'on peut appeler l'industrie 4.0. Donc essentiellement, on avait l'habitude, pour optimiser par exemple les procédés de fabrication de différents composés ou appareils, de faire une démarche de type test-erreur. Et donc, de créer en fait cette industrie 4.0, c'est de mettre en place des jumeaux numériques. C'est-à-dire, on va faire un jumeau qui a exactement toutes les caractéristiques du matériel qu'on veut mettre en place, et par ce jumeau numérique, on va avoir un gain de temps et un gain d'énergie et d'optimisation des procédés. Donc ça, ce développement-là va toucher toute la productivité et ça va influencer sur la croissance et dans différents domaines d'activité.
Et au-delà de l'industrie, l'intelligence artificielle pourrait aussi transformer nos sociétés de façon profonde, notamment grâce à la connaissance très fine qu'elle est capable de générer sur un sujet. Un exemple, Arnaud de Mortière ?
En termes de, par exemple, de politique, il faut que, à l'échelle d'une ville, par exemple, le maire doit avoir une connaissance assez fine des pratiques, des habitudes des concitoyens. Et c'est vrai que la capacité de pouvoir avoir la connaissance de tout ça peut éventuellement et doit en fait influencer les décisions qui sont prises dans la manière de gérer les politiques. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Ça doit toucher en fait l'ensemble de la société, en particulier ce qui nous régit dans les lois, dans la gestion du groupe, d'être ensemble. Et c'est vrai que ça, c'est totalement inédit. En sociologie, il y a toujours deux choses qui s'opposent. Il y a l'individu et le groupe. Et c'est vrai que l'idéal en sociologie, c'est de faire le lien entre les deux. On n'y arrivera jamais, mais de bien connaître l'individu, de bien connaître le groupe, je pense qu'on arrivera en quelque sorte à avoir une société où l'homme se connaît mieux. Et ça, c'est évidemment extrêmement positif pour le futur.
Alors, du général au particulier, du collectif à l'individu, du neurone à la vie en collectivité, il n'y a peut-être qu'un pas à faire pour continuer de mettre la technologie au service de l'humanité. Enfin, nous, on vous dit ça, on ne vous dit rien. On vous met juste la puce à l'oreille. Si vous souhaitez approfondir vos connaissances sur le sujet, La Puce à l'oreille vous recommande le livre de Rodolphe Gelin, Dernières nouvelles de l'intelligence artificielle, paru aux éditions Flammarion, Et pour les anglophones, eh bien, il y a également le livre intitulé très sobrement « Deep Learning », un livre de Yann Goodfellow, Joshua Bengio et Aaron Courville. Je suis Sophie Comte, cofondatrice de Chute Magazine et de Chute Radio, et je suis ravie d'avoir prêté ma voix à Swarma. Ce podcast a été écrit par la journaliste Nolwenn Mogwen. Nous remercions également notre sponsor, l'assureur AXA. Pour écouter les prochains épisodes, tapez la puce à l'oreille dans votre plateforme d'écoute et même Chute Radio pour découvrir toutes nos émissions. À bientôt !